téléspectateurs.
J'ai entendu ça aux infos. Les réseaux sociaux. On est très fiers. C'est intéressant. Ouais.
Il est 9h40 sur France Inter, dernier instant M de la semaine.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
Une édition super raccourcie ce matin, comme on le fait une fois par mois, pour laisser place au médiateur des antennes de Radio France. Bonjour Bruno Denas.
Bonjour Sonia De Villers.
Vous revenez sur cet entre-deux-tours tendu pour les journalistes ainsi que pour les humoristes. Vous avez convié ce matin Laurence Bloch, directrice de France Inter, et Jean-Marc Four, directeur de notre rédaction, pour répondre aux questions nombreuses des auditeurs. Avant cela, deux infos médias, une madeleine et une pincée de Vandel. Bah oui, c'est vendredi. Salut Philippe.
Bonjour Sonia.
Un sanglier qui crie, c'est un sanglier qui
braie?
Non,
c'est l'âne.
Qui grommelle? Rubrique 30 millions d'amis.
Instant M. Tous les médias sont sur France Inter.
Bon, très sérieusement, les chiffres de la presse viennent de tomber. Le Monde devient le premier quotidien payant français. L'Équipe lui a donc cédé sa place, bien que le quotidien sportif soit aussi à la hausse. À noter que Libération, c'est plutôt une bonne nouvelle, endigue enfin l'hémorragie côté papier. Globalement, les quotidiens se portent plutôt bien. Audience numérique maintenant, c'est le carton plein pour les grands titres. Le Figaro est le champion de l'année 2016. Retour au papier, la presse régionale souffre, tous titres confondus. Les news magazines voient, eux, leur vente repartir à la hausse. C'est le cas de L'Obs, du Point, de Marianne, de Paris Match. L'Express, en revanche, poursuit sa plongée. À noter également que dans la famille magazine, la presse télé, la presse people et la presse féminine enregistrent une année 2016. Très difficile.
Vous avez déjà voté Marine Le Pen au premier tour? Vous
venez? Oui.
D'accord,
oui.
Vous êtes.
Depuis 10 ans.
D'accord.
S'il vous plaît, je vais vous demander de sortir.
On ne peut pas assister au meeting?
Non.
Pourquoi?
Parce que.
Vous voulez pas voir notre carte de presse, madame?
Non, je la connais, votre carte de presse. C'est un lieu privé, je vous demande de sortir.
Extrait de l'émission de Yann Barthès avant-hier. Les sociétés de journalistes d'une trentaine de médias ont signé une pétition pour protester contre la décision du Front National de choisir les médias autorisés à suivre Marine Le Pen. Un texte publié hier soir dénonce une entrave à la liberté d'informer. Mediapart, Quotidien, l'AFP, Radio France, RFI, France 24, Le Monde, Libération, Marianne, entre autres, se sont vus écartés des déplacements et événements organisés par la candidate. Je profite de la présence de Jean-Marc Four. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de la rédaction de France Inter. Je le rappelle, ce sont les journalistes qui ont signé cette pétition. Ce ne sont pas les patrons de rédaction. Toutefois, je voudrais que vous nous expliquiez si une formation politique est habilitée à décider des médias qui peuvent ou non exercer leur rôle en démocratie, on va dire tout simplement.
Alors, oui, c'est important de préciser que moi, je n'ai pas vocation à parler au nom des sociétés de journalistes qui sont des organes déontologiques, qui sont l'émanation des rédactions. Donc, ça n'a rien à voir avec les directeurs de rédaction. Alors, pour répondre à votre question, le Front National fait évidemment ce qu'il veut, par définition. Il sélectionne qui il veut. Simplement, c'est vrai que les remontées de terrain sont très nombreuses. Je peux confirmer ce que disent les sociétés de journalistes. C'est-à-dire que les remontées de terrain sont très nombreuses pour constater que de très nombreux journalistes, de nombreux médias sont empêchés de faire leur travail correctement par le Front National qui sélectionne une poignée de reporters pour suivre les déplacements de Marine Le Pen ou pour les informer de ces déplacements. Oui, c'est vrai.
Voilà. Donc, entrave à la liberté d'informer, selon vous?
Oui, c'est le cas, oui.
Oui, c'est le cas. Allez, c'est vendredi. Notre Madeleine est un hommage à tous ceux d'entre vous qui ont passé des nuits à écouter la radio, à tous ceux d'entre nous qui ont travaillé la nuit à la radio et à tous ceux qui commencent à travailler quand les autres vont se coucher. Comment s'appelait la première émission à être diffusée toute la nuit? Elle a été lancée en 1955 et diffusée sur France Inter jusqu'en 1973.
Cocteau a dit, écrire, c'est faire passer au jour la petite nuit secrète que l'on a en soi. Alors comme la nuit a peur du jour, eh bien la nuit, ça se passe mieux. Alors l'écriture, n'est-ce pas, passe dans le bras, vient en encre noire sur la page blanche, et l'opération est évidemment plus facile la nuit, elle a moins peur. Alors j'écoute la radio, et puis j'écris, et puis j'écoute à nouveau la radio, et puis j'écris. C'est comme ça que je passe la plupart de mes nuits.
C'est l'écrivain Michel Tournier qui était l'invité de cette émission. Comment s'appelait-elle cette émission de nuit lancée en 1955, diffusée sur France Inter jusqu'en 73? Vous m'écrivez un mail à l'instant M, tout attaché, à radiofrance.com. Et moi, je vous offre le double CD de Lina, Enfance, lu par Jacques Prévert lui-même. C'est magnifique, Jacques Prévert, qui disparaissait il y a tout juste 40 ans. Philippe Vandel.
Alors, est-ce qu'autour de cette table, vous êtes tous au courant de l'affaire des sangliers? Bruno?
Ça me dit quelque chose,
mais Bruno, le sanglier.
J'ai lu quelque chose là-dessus, mais je ne sais plus ce que c'est.
C'était peut-être dans le Figaro. Mercredi, le Figaro a repris une info donnée la veille sur leur site internet, et voici l'info. 3 combattants de l'État islamique seraient morts dimanche en Irak, près de Kirkouk, après avoir été attaqués par des sangliers. Le Figaro cite l'AFP et une autre source, Al-Soumaria News, qui disait que les djihadistes étaient ensuite vengés sur les porcs qui ont attaqué la ferme. Sauf que le lendemain, le Figaro rectifie. Nous avons repris cette information sans la vérifier. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour cette erreur. Ils ne sont pas les seuls médias à avoir cru au canular. Je peux vous citer Le Parisien ou encore M6 qui ont plongé. Et pourtant, mardi à 14h08, BFM TV titrait « Irak, non, 3 djihadistes de Daesh n'ont pas été tués par des sangliers ». Et 2 heures plus tard, à 16h05, CNews Matin titrait « 3 djihadistes de Daesh tués par des sangliers ». Alors là, une remarque en passant. Pour tous les gens qui prétendent que CNews copie BFM, c'est faux, s'ils avaient copié BFM, ils auraient su que l'attaque des sangliers, c'était du pipeau. En tout cas, il devient de plus en plus difficile pour les journalistes de faire la part des choses entre le vrai et le faux à cause de la multiplication des sources. Et même le site Atlantico s'est fait avoir. Ils ont publié jeudi 20 un article sur Jean-Luc Mélenchon, le titre « Après la péniche, le jet insoumis de Mélenchon, petit voyage entre amis du luxe ». Alors on nous disait que non seulement Mélenchon avait voyagé en jet privé pour sa campagne, mais aussi que le parti de gauche avait acheté un jet à disposition du chef. Or, c'est une invention du site parodique Le Gorafiste en 2013. Jean-Luc Mélenchon se justifie après l'achat d'un jet privé par le parti de gauche, ça c'est le titre. Et Atlantico a repris tranquillou des allégations du Gorafi qui sont faites pour faire rire. Par exemple, Mélenchon connaîtrait personnellement les ouvriers qui ont fabriqué l'appareil, avion qui lui permet de se rendre sur n'importe quelle zone de plan social en moins de 2 heures. Bon, tout ça c'est faux. Mais la conséquence, c'est que depuis quelques temps, quand un journaliste a une information carrément incroyable à faire passer, eh bien il arrive qu'il mette la mention pas Gorafi. Et c'est même devenu un hashtag sur Twitter. Exemple, hier, ce titre de Ouest France, déclarée morte par le médecin, elle est réanimée par la police. Eh bien, c'est pas Gorafi, tout est vrai. Et alors, mardi.
C'est pas Gorafi, ça veut dire, c'est pas une blague, c'est pas une parodie, c'est bien du sérieux, ouvrez vos yeux. C'est
exactement,
pas Gorafi.
C'est le hashtag pas Gorafi. Et alors, mardi, je trouve ce titre dans la presse, Emmanuel Macron dragué par les copines de sa belle-fille. Waouh. Dragué par les copines de sa belle-fille, c'est chaud. Ça vient d'où? Voici Closer France Dimanche, pas du tout, le Figaro. Et c'est même d'une urgence absolue puisque le site a balancé un tweet dans la nuit de mardi à mercredi à minuit 25, ça pouvait pas attendre. Alors je vous lis l'article qui l'accompagne. Le Figaro écrit « Dans une interview accordée à Vanity Fair, Tiffaine, la fille de Brigitte Macron, raconte de croustillantes anecdotes sur Emmanuel Macron. L'une d'entre elles concerne les amis de Tiffaine sous le charme du candidat. Et il y a même une vidéo. Elle vient de Vanity Fair? Pas du tout. Elle vient du Figaro? Pas du tout. La référence est Non-Stop People, une chaîne du câble qui traite 24 heures sur 24 l'actualité des célébrités et ils ont fait un sujet sur le sujet.
Dans une interview pour Vanity Fair, la belle-fille d'Emmanuel Macron, Tiffaine, a avoué que ses copines n'étaient pas insensibles au charme de son beau-père. La fille de Brigitte et lui s'entendent très bien, comme elle le confie dans les pages du magazine. Ils se connaissent depuis de longues années et à en croire les révélations de Tiffaine, Emmanuel Macron rencontrerait un franc succès auprès de ses amis. Certaines ont même tenté de le charmer, en vain. Elle raconte que ses copines le trouvaient beau gosse, mais qu'il y était insensible.
Alors voilà, il n'y aura rien de plus, rien de croustillant donc. Le mot drague qui était dans le titre du Figaro est totalement absent. Mais l'intégrale de ce que vous venez d'entendre n'est pas dans Vanity Fair, qui mentionne seulement une phrase de la fameuse Tiffaine. Attention, elle fait 10 mots. Mes copines le trouvaient beau gosse, mais il y était insensible, point. Donc je résume, pour reprendre un papier de Vanity Fair, le Figaro s'appuie sur un journaliste de Non-Stop People qui reprend lui-même l'article et qui brode, c'est-à-dire l'homme qui a vu l'ours, pardon, le sanglier.
Et qui l'a dragué.
Exactement, croustillant.
Merci Philippe Bondel. C'est la fin de cette émission, on a un gagnant ce matin, un gagnant qui s'appelle Gérard. Vous avez été très très peu nombreux à retrouver le nom de cette émission emblématique qui s'appelait Route de Nuit et qui a été créée par Roland Dordain, émission emblématique puisque c'est la première émission de France à être diffusée toute la nuit. Voilà, un immense merci à Violaine Ballet, à Anne-Cécile Perrin, Redouane Tella qui travaille d'arrache-pied à cet instant média, aux techniciens aussi qui nous mettent en son tous les matins. Aujourd'hui c'était Antoine Gomez aux manettes. Cher médiateur des antennes de Radio France, Bruno Donas, c'est à vous.
France Inter, la séquence du médiateur.
Bruno Denas.
Merci Sonia et bonjour à tous pour ce rendez-vous mensuel du Médiateur. Alors nous allons revenir sur la campagne électorale et ce vent de folie, pourrait-on dire, qui l'entoure. Vous êtes nombreux, très nombreux à m'écrire sur quasiment tous les aspects du traitement politique sur France Inter. Jean-Marc Faure, directeur de la rédaction, viendra donc dresser un premier bilan de cette campagne. Mais on va commencer tout de suite avec l'épisode Pierre-Emmanuel Barret. Cet humoriste qui intervient le mercredi dans l'émission La Bande Originale a choisi de ne pas faire sa chronique cette semaine à cause d'une remarque de son producteur Nagui. Alors les réseaux sociaux s'en sont emparés, beaucoup de questions posées également au médiateur pour en savoir plus. Bonjour Laurence Bloch.
Bonjour Bruno.
Alors vous êtes la directrice de France Inter, alors dites-nous exactement de quoi il s'agit.
Alors, il s'agit donc de Pierre-Emmanuel Barret, vous l'avez dit, qui fait une chronique hebdomadaire chez Nagui, qui est de la tribu Inter, j'ai envie de dire, depuis 5 ans, et qui donc a à son actif, on va dire, 300, 310, 320 chroniques, qui se caractérisent par un langage peu châtié, assez fleuri, qui énerve, qui scandalise, qui voilà. En gros, Pierre-Emmanuel Barret, une fois par semaine, vient dire ce qui l'énerve, lui dirait « je viens dire ce qui me fait chier ». Ça, c'est le contexte. Les faits. Mercredi, donc avant-hier, Pierre-Emmanuel Barret a décidé de consacrer sa chronique à la stigmatisation des abstentionnistes, disant, voilà, arrêtez de nous dire que c'est pas bien, laissez-nous faire ce qu'on a envie de faire, on est assez grand. Le producteur Nagui, tout ça quelques minutes avant l'émission. Le producteur Nagui s'en est ému et lui a dit qu'il considérait que cette défense des abstentionnistes était grave et que l'abstention était une menace au pacte républicain. Ce qu'on peut comprendre compte tenu de l'hystérie de la semaine. La discussion n'a pas eu le temps de s'engager. Pierre-Emmanuel n'a pas voulu bouger d'une ligne ni d'un iota sa chronique, ce que je peux comprendre. Et Nagui, lui, a décidé de ne pas la passer. Acte 1. La chronique n'a donc pas été diffusée par France Inter le mercredi à 11h30. Acte 2. Dès l'après-midi, Nagui envoie un SMS à Pierre-Emmanuel Barret en lui disant « Pierre-Emmanuel, viens faire ta chronique demain sur France Inter. Nous ne toucherons à aucune ligne. Elle sera diffusée dans son intégrité. Si demain, ça n'est pas le bon moment parce que ça n'est pas ton jour et que tes auditeurs ne seront pas là, reviens la semaine prochaine. » Je t'embrasse. Et dans la foulée, France Inter met sur le Facebook de l'émission de Nagui la chronique que Pierre-Emmanuel Barret lui-même avait réalisée avec ce grand bandeau « Censure ». Acte 2. Acte 3, le lendemain, je vois Pierre-Emmanuel Barret. Je lui dis que je regrette infiniment qu'on n'ait pas eu le temps d'en parler ensemble. Donc c'était hier. Pierre-Emmanuel me dit qu'il ne souhaite pas continuer pour le moment dans l'émission de Nagui, qu'il a besoin de prendre des vacances et on décide de se revoir pour la rentrée. Ça, c'est vraiment c'est une série télé, quoi. C'est un petit feuilleton. Ah oui. Alors, moi, ce que je voudrais en dire, je le dis, je l'ai d'ailleurs eu l'occasion de le dire il n'y a pas si longtemps ici, et je le redis fortement, la liberté d'expression sur France Inter pour les humoristes, comme pour les éditorialistes, est totale. La seule limite, c'est la loi. Mais je dis aussi que la liberté d'expression, elle doit pouvoir s'accompagner d'une liberté de discussion. On doit pouvoir discuter, élaborer. J'ai envie d'utiliser ce mot. On a le droit de s'interpeller. Si après cette discussion, cette controverse, la chronique n'est pas diffusée, là il y a censure. À ce stade, on n'en est pas là. On a proposé à Pierre-Emmanuel de revenir, de la faire dans son intégralité. On l'a publié sur le Facebook. Donc, je considère qu'il faut faire attention. Particulièrement en ce moment, au mot qu'on utilise, le mot censure est un mot fort, il veut dire quelque chose. Et je le dis très clairement, je pense qu'à ce stade, on n'en était vraiment pas là sur France Inter.
Ça dit, Nagui, en tant que producteur, a le droit aussi de faire des remarques, un peu comme un rédacteur en chef
a le
droit de faire
des remarques. Je dis, il faut la liberté d'expression, elle doit s'accompagner d'une liberté de discussion. Quand après cette liberté de discussion, il y a interdiction, là on peut considérer qu'il y a censure. Mais à ce stade, on n'en était pas là. Encore une fois, je dis, tout ça se fait à quelques minutes d'une antenne qui est une antenne en direct.
Alors, il y a aussi beaucoup d'auditeurs quand même qui se sont étonnés du parti pris de la plupart des humoristes. Nicole Ferroni, l'émission de Charlie Van Hennecker, par exemple, qui appelle délibérément à s'abstenir au second tour. Ce n'est plus de l'humour, mais un appel politique, nous a écrit notamment Marc. Est-il normal de lancer un appel politique dans une émission humoristique ?
Alors, je voudrais dire deux choses là-dessus. Je pense qu'il faut faire très attention à ce qui est dit en ce moment. Il faut vraiment tendre l'oreille. Il n'y a pas eu chez Nicole Ferroni d'appel à l'abstention. Elle s'en est d'ailleurs expliquée. Je crois que c'est sur son Facebook.
Oui, le lendemain,
elle a texte extrêmement éclairant sur ce sujet. Donc, je pense qu'il faut s'y reporter. Il y a des... Donc, voilà, tendons l'oreille, soyons calmes, écoutons bien tout ce qui est dit. C'est beaucoup plus subtil que ce que, quelquefois, on rapporte. Et par ailleurs, il y a des émissions qui sont des émissions quotidiennes. L'émission de Charline est une émission quotidienne. Elle invite des invités qui ont plusieurs points de vue et l'équilibre se fait d'une émission à l'autre.
D'accord, bien, merci Laurence Bloch pour toutes ces précisions. On va parler à présent de la politique et de son traitement par la rédaction. Bonjour Jean-Marc Four, directeur de la rédaction. Bonjour. Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous avons reçu énormément de réactions, souvent passionnelles, souvent identiques d'ailleurs, mais émanant de bords différents. Pour résumer, vous parlez toujours des autres candidats, mais pas ou mal du mien. Ce qui montre finalement que vous avez donné la parole à tous.
Oui, je crois que chacun voit un peu midi à sa porte. Voilà, c'est... Après, il y a effectivement, Laurence Bloch le disait à l'instant, beaucoup de tensions, beaucoup de crispations.
Chaque camp
est assez tendu, vous envoie des mails assez agressifs. Là, ces derniers temps, ces derniers jours, on a reçu beaucoup, par exemple, de courriels disant vous donnez trop de place au Front National.
On va en parler d'ailleurs après. Ouais.
Bon, la préconisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel est de faire 50-50 en temps de parole entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Excusez-moi. Je suis fatigué.
On sent une certaine fatigue.
Les semaines sont longues.
On sent une certaine fatigue. Qu'est-ce que vous voulez ? Voilà, c'est.
Alors, comme d'autres concurrents, France Inter a quand même été épinglé par le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Qu'est-ce qu'on vous reproche exactement ?
Je ne sais pas.
Ah bon ?
Je ne sais pas. Nous n'avons aucun détail du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Alors, c'est vrai que c'était repris par toute la presse, sauf que jamais il y a eu la raison.
Je ne sais pas, je n'ai aucun détail sur cette... Et juste vous dire ma surprise, parce qu'effectivement, ce qui nous semble le critère essentiel, en tout cas celui qui a toujours été présenté comme tel, c'est l'équilibre entre les temps de parole des différents candidats. Si on prend les 11 sur la dernière période, je vais vous donner les chiffres globaux sur donc l'antenne, c'est ça oscille entre 40 minutes pour celui qui en a eu le moins et 53 pour celui qui en a eu le plus. Je n'ai pas l'impression qu'on soit dans le déséquilibre. Voilà.
Donc on peut être épinglé par le CSA sans aucune raison.
Voilà, puis je ne sais pas non plus vous dire, enfin, me mettre à me parler de nos confrères. Chacun est libre d'aller voir sur le site du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui a eu combien de temps de parole dans les différents médias. Donc voilà, j'ai pas l'impression que France Inter soit le entre 40 et 53 minutes le plus déséquilibré.
Plus mauvais des élèves. Mmh. Alors, quelles sont d'ailleurs les principales difficultés que vous avez rencontrées durant cette campagne du premier tour ?
Je dirais deux choses. À nouveau, je vais redire l'agressivité, beaucoup d'agressivité pour les reporters sur le terrain, beaucoup de difficultés à effectuer son travail, voilà, beaucoup d'agressivité contre les médias. Et puis la deuxième difficulté, c'est quand même le refus de certains candidats de répondre à des demandes d'interview, y compris dans des grands médias.
De boycott quand même.
Alors pour ce qui concerne France Inter, c'est la matinale de France Inter qui est quand même le grand carrefour d'information radio en France. C'est Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, mais il y a d'autres exemples ailleurs. François Fillon a refusé de répondre au Monde peu avant le premier tour. Enfin voilà, on n'est pas les seuls. Il y a plusieurs cas de ce genre. C'est quand même c'est une vraie grosse difficulté, puisque d'un côté on a des devoirs de respecter les équilibres, mais de l'autre les candidats, si j'ose dire, n'ont pas ce devoir de répondre aux médias de façon équitable, donc c'est difficile quand même, c'est des injonctions un peu contradictoires.
Alors, on va terminer rapidement avec les résultats positifs de cette campagne électorale. Finalement, c'est le nombre d'auditeurs considérable gagné par France Inter. Je me retourne vers vous, Laurence Bloch, une récompense adressée par les auditeurs à France Inter ?
Oui, c'est pas grâce à la période électorale, hein. C'est vraiment grâce aux gens qui travaillent sur cette chaîne. Mais oui, c'est vrai qu'il y a exactement une semaine, on a su que France Inter avait atteint des records d'audience, puisqu'on a tous les jours 6 300 000 auditeurs qui nous écoutent. Voilà, c'est vrai que c'est une vague qui nous fait très plaisir, parce qu'il y a des tranches qui n'ont jamais eu ce niveau d'écoute. La tranche de Sionéa, par exemple, que je salue, parce que c'est un record absolument historique. Le 7-9 de France Inter, record historique. Le 8h qui a atteint des sommets. Je me retourne vers Jean-Marc, parce que je ne sais plus exactement en termes de millions d'auditeurs, combien
de pas loin de 2 millions et demi.
Pas long, c'est formidable. Je vais vous dire, c'est formidable pour une chose. Je vous vois lever la main parce que c'est fini, mais je vais vous dire une chose. C'est pas tant les chiffres, moi, que je trouve épatant. C'est qu'on réussit ça alors qu'on a des programmes compliqués, de qualité, qu'on cède jamais à la facilité.
Et très différent, en plus.
Ce matin, Chamoiseau, Raoul Peck, c'était magnifique. On traite l'international. On a une émission scientifique extraordinaire, je veux dire. On a des auditeurs, c'est formidable. Mon souci, c'est pas de battre RTL. Mon souci, c'est d'avoir de plus en plus d'auditeurs en faisant des programmes de cette qualité-là.
Eh bien, bonne chance en tout cas pour continuer de progresser. Merci Laurence Bloch, directrice de France Inter. Merci Jean-Marc Four, directeur de la rédaction. Prochain rendez-vous du Médiateur dans un mois. D'ici là, vous pouvez continuer à réagir sur notre site mediateur.radiofrance.fr. Dans quelques instants, ce sera Grand bien vous fasse, les livres qui nous rendent optimistes. Ça va nous faire du bien avec Ali Rebehi.